Vous connaissez la joie parfaite? Pour la fameuse histoire de saint François d'Assise. Il a raconté cette histoire et je lui ai donné comme titre La joie parfaite. C'était un jour avec son disciple préféré, le frère Léon. Et il dit à frère Léon, frère Léon, sais-tu ce qu'est la joie parfaite? Alors le frère Léon lui cite un tas de choses merveilleuses. Et chaque fois, saint François lui dit, mais non, c'est pas ça, mais non, c'est pas ça, mais non, c'est pas ça. Et puis quand il a fini sa litanie de magnifiques choses qui pourraient leur arriver, à eux les pauvres, saint François lui dit, je vais te dire ce qu'est la joie parfaite. C'est l'hiver, il fait comme ici, moins 10, nous sommes couverts de neige, nos robes sont mouillées, transies de froid, couverts de glace, on patauge à travers la neige, en pleine nuit, tout à coup, enfin, on arrive au monastère. On tape avec notre bâton contre la porte pour qu'on nous ouvre. Personne n'ouvre. On tape. Personne n'ouvre. On tape. On meurt de froid. Tout à coup, l'hôtelier entre-ouvre la porte et il crie, je ne vous connais pas, allez-vous-en. Il referme la porte. On continue à frapper. On continue à frapper. Et puis ça s'ouvre de nouveau. Et puis l'hôtelier vient, il nous engueule, il nous frappe, on tombe dans la neige. Frère Léon, si à ce moment-là tu bénis Dieu et le loues, alors tu es dans la joie parfaite. Qu'est-ce que nous dirions-nous? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive à moi? Eh bien, ça nous appartient de commencer tout de suite. À 5h moins 20, vous pouvez commencer. Je ne sais pas quel est votre état d'âme. Vous le connaissez? Ouais, l'état d'âme, c'est toujours ce qui me plaît ou me déplaît. On est constamment dans cette dualité qui nous tue. Ça me plaît, ça me déplaît. Ça m'attire, ça me repousse. C'est beau, c'est laid. On est torturé par ces états d'âme. Vous pouvez immédiatement commencer avec votre âme et commencer avec les anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Sois béni, loué. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Le psaume 103 par exemple. Qu'est-ce qui se passe alors? Bien, vous transcendez la dualité de votre âme et vous percez vers l'esprit. L'esprit de l'homme. L'homme est corps, âme, esprit. Et l'enjeu de la véritable prière, l'enjeu de l'amour tout court, c'est de percer de l'âme à l'esprit. Et l'esprit, il est au-delà de toute dualité. Il ne connaît pas les oppositions. Il est toujours dans les fruits de l'esprit, la paix, la joie et l'amour, toujours. Et si nous sommes tristes, ça montre que nous ne sommes pas dans l'âme, dans l'esprit. Nous sommes dans l'âme, nous sommes des êtres psychiques, comme les animaux. Tous les animaux ont une âme et un corps. Et la plupart du temps, nous végétons sur cette ligne de l'horizontalité animale. Nous sommes dans le monde psychique. La prière, elle fait cette percée vers l'au-delà. Cette percée vers l'au-delà habitée par la joie en personne. C'est notre responsabilité envers les autres, mais la joie est aussi une responsabilité envers nous-mêmes. Le Christ a dit « Aimez les autres comme on s'aime soi-même ». Est-ce qu'on s'aime d'abord? S'aimer, c'est être dans la joie, je l'aurais dit et redit. S'aimer, c'est être dans la joie. Quel est l'exercice de joie que je cultive pour y être? Est-ce que j'ai un exercice de joie? Vous en avez un? Sinon, il faut le trouver et l'exercer. Du matin au soir. Ça peut être un morceau de psaume, celui que je viens de citer, le début du psaume 103, « Mon âme bénit le Seigneur ». Ça peut être une parole de saint Paul, il est rempli de joie. Quand il dit, par exemple, « Je déborde de joie au milieu des tribulations », vous rendez compte? Saint Paul était un être traqué, harcelé, persécuté, continuellement. Il avait une vie invraisemblable. Eh bien, je tressaille de joie au milieu de mes tribulations. On peut répéter une phrase comme ça. Ou on peut répéter le début du chapitre 4 des Philippiens, épître entièrement écrite avec l'angle de la joie. Pourtant, il attend le martyre. Quand il écrit l'épître aux Philippiens, il attend d'être décapité. Et il dit, réjouissez-vous. Il pense bien qu'on ne l'a pas entendu. Bien vu, je répète, réjouissez-vous. Pourquoi ? Je suis en prison. J'ai les pieds dans l'eau, parce que dans la prison amertume, on baignait dans l'eau. Hein. D'ailleurs, il a profité pour baptiser un de ses gros prisonniers. C'était des vrais trous noirs, exécrables, attendant le martyr. Une épître remplie de joie. Pour quel motif ? Le motif est donné voilà, dans le verset suivant. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Il n'y a pas d'autre motif. Du moment que le Seigneur est proche, plus intimement que moi-même, j'ai la joie dans ma peau. Et si je ne suis pas dans la joie, ça veut dire que je suis dehors, puisque lui est dedans. C'est une preuve que je suis dehors. Il s'agit donc, et c'est ça l'exercice, du matin au soir, dès que je me lève, d'entrer à l'intérieur de moi, de descendre dans ma profondeur, de prendre racine. Et ici, le corps, effectivement, est une extraordinaire aide. Le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure, vous pouvez le faire 1000 fois par jour, à travers les rappels. Sentir son corps, simplement par l'écoute. Il se détend profondément. Plus on écoute son corps, plus il se détend. Mais la détente est une attitude d'abandon qui veut dire au Seigneur, toi, sois Dieu en moi. On lâche prise, rien que par l'écoute. Le corps se détend, l'expiration se ralentit et on se centre. Et on cesse d'être victime de l'ego. Rien que cet exercice nous ouvre à la présence, mais il faut l'exercer. Si vous le faites que de temps à autre, le dimanche à la messe, alors rien ne va plus. Inutile d'y aller, vous savez. Ça, c'est là. La religion, il faut en sortir. La religion, c'est une étape de notre vie. Il faut en sortir. Le Christ a bazardé la religion, je m'excuse, vraiment. La religion au sens étymologique du terme, c'est « je suis là, Dieu est derrière » comme dit Nietzsche à Maria, à un massif d'astres. Je me relie, la religion, je me relie à lui, à cet être dangereux. Plus il est extérieur, plus il est dangereux. Parce qu'il pointe son doigt sur moi en me disant constamment « qu'est-ce que tu as encore fait là ?» C'est ça la morale, la culpabilité. Qu'est-ce que tu as encore fait ? Les mauvais péchés qui n'en sont pas. Cette religion-là, il faut la bazarder. Qu'est-ce qui est arrivé à Noël ? Dieu est entré dans ma peau, il est la chair de ma chair, je n'ai rien à relier. Je vais apprendre conscience, à sentir, à descendre dans la profondeur de ma sensation, sentir sa présence, l'expérimenter, m'en réjouir. Enfin, je suis un être libre, joyeux, parce qu'il est cela en personne. Je n'ai plus besoin d'avoir des angoisses parce qu'il est, je ne sais pas où, là-haut, qu'il pointe son doigt sur l'enfer qui m'attend. Donc c'est une immense responsabilité envers moi-même. Plus je suis un être heureux, plus je suis fidèle à Dieu et à l'amour pour les autres. Les proverbes, déjà, dans l'Ancien Testament, disent, au chapitre 17, pour ceux que ça intéresse, verset 22, « Le cœur joyeux fait du bon sang, un esprit abattu dessèche les eaux. » Rendez compte, aujourd'hui, ça s'est prouvé scientifiquement. Ceux qui connaissent les grandes découvertes d'Emoto, le professeur japonais, la mémoire de l'eau, savent à quel point... Tout ce que nous pensons s'inscrit dans notre profondeur cellulaire. La mémoire de l'eau, l'homme est fabriqué à 80% d'eau, tout s'inscrit dans la mémoire qui nous constitue. Alors, on a fait des tests métaboliques qui prouvent cela. Ce n'est pas le moment de parler de cela. Mais il faut se méfier de l'état d'âme dans lequel on vit et qu'on entretient parce que ça amène toutes les conséquences. Je ne fais pas de court-circuit. Il faut éviter de dire, j'ai telle maladie, donc qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu? C'est faux. Toute l'humanité est en état de rupture avec Dieu. Nous portons le mal les uns des autres. Ah, ça, c'est une autre vision des choses. Il n'y a aucune culpabilité dans l'évangile. En tout cas, il faut avoir quelques certitudes. La tristesse ne vient pas de Dieu. Comme dit saint Paul aux Romains, chapitre 14, verset 17, le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi la tradition a appelé l'Esprit Saint le rire de Dieu. Celui qui est temple de l'Esprit Saint, il est habité par le rire de Dieu. Je ne parle pas ici, évidemment, quand je pense à nos souffrances et au tragique de la vie, je ne parle pas de l'hilarité psychique. Il y a des gens qui ont une nature facile et une bonne digestion et qui ont toujours le rire aux lèvres, mais ça, c'est pas de ça que je parle. Je parle de cette sérénité des profondeurs qui a ses racines dans l'au-delà du tumulte extérieur. Vous voyez, c'est une belle image qu'utilisent souvent les hindous, celle des vagues. Nous nous identifions aux vagues de la mer. Mais les vagues ne sont que l'expression d'une profondeur immuable, habitée d'une paix tranquille. Pourquoi on s'identifie à l'existentiel? Alors que si on descendait dans la profondeur de la mer, on connaîtrait cette paix des profondeurs de la mer, de l'océan. Nous sommes un océan intérieur. C'est dire que la joie est indispensable à la vie spirituelle. Un très grand philosophe de l'Antiquité païenne, Aristote, le disait en toutes lettres, il y a plus de 20 siècles, que l'homme ne peut pas vivre longtemps sans joie. C'est une citation. L'homme ne peut pas vivre longtemps sans joie. Et dans les pays de l'Est, où maintenant, grosso modo, le communisme a disparu, il n'avait plus la joie des fêtes. Et donc, cette chape de tristesse pesait souvent sur eux. Eh bien, l'État russe, entre autres, pour ne pas citer les autres, obligeait le peuple régulièrement à aller au spectacle, au théâtre, aux amusements, pour au moins retrouver cette dimension, pendant, ne serait-ce que pendant quelques instants, essentielle à l'homme. L'homme ne peut pas vivre sans joie. Et si nous demeurons sans joie, c'est très risqué. C'est très risqué pour notre relation avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes et notre avenir immédiat. Et la joie, en plus, est la loi même du progrès spirituel. Un des plus grands théologiens de l'Occident, saint Thomas d'Aquin, qui a vécu au XIIIe siècle, que je ne cite pas non plus très souvent, et j'ai mes raisons, mais il a tout de même dit cette phrase inouïe. Il est nécessaire, dit-il, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. Il est nécessaire à quiconque veut progresser dans la vie spirituelle de posséder la joie. Il est nécessaire, si on veut progresser, de posséder la joie. Donc, sans joie, il n'y a pas de sainteté. Et si vous êtes triste, vous ne serez jamais canonisé. Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde connaît la fameuse phrase qu'on prête à Sainte Thérèse de Lisieux, mais qui appartient à Saint François de Sales. Un saint triste est un triste saint. Ah oui, ça c'est formidable. Un saint triste est un triste saint. Les quelques saints que nous avons rencontrés, Rachel et moi, c'est toujours cela qui nous a frappé le plus. Ce rayonnement prodigieux. Et en effet, il montre immédiatement que ça n'a rien à faire avec le psychisme gay ou d'une nature enchanteresse ou quoi que ce soit. Le père Sophronie, qui était notre père spirituel, par exemple, Durkheim, ou d'autres. Ce qui frappe au premier regard, c'est le rayonnement de la joie. de la présence du Christ. Et en effet, Saint Paul, en particulier dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11, il assimile la joie à la perfection. Il dit dans ce texte, « Soyez joyeux, devenez parfaits. » Et il lit les deux. Et c'est facile à comprendre, on ne fait vraiment bien que ce que l'on fait avec joie. Seuls les actes accomplis dans la joie sont les actes parfaits. C'est dans le livre d'Esdras, dans l'Ancien Testament, le deuxième livre d'Esdras, au chapitre 8, verset 10, que Dieu dit, « La joie en Dieu est votre force. » Et dans le Deutéronome, j'ai oublié la référence, il y a cette fameuse petite parole où Dieu dit « Ma joie, c'est votre bonheur. » Et c'est un leitmotiv pas seulement dans l'Évangile, il est partout, dans toute la Bible, il traverse comme un grand thème toute la Bible.